Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Je poursuis ces interviews croisées et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Julien pour lui poser mes trois fameuses questions. Si tu n'as pas encore écouté les précédentes interviews, je t'invite à prendre le temps de le faire. Tous nos échanges ont été passionnants et je suis sûr qu'ils vont te donner un énorme coup de boost pour ton activité. Avant de te laisser avec l'épisode du jour, j'ai le plaisir de t'annoncer officiellement que Julien sera mentor dans le Winter Club qui arrive dans quelques jours. Il interviendra auprès des membres pour transmettre son regard sur le marché de la photographie intime et partager les stratégies qu'il a utilisé pour réaliser plus de 10 mariages et 80 séances cette année. Je t'en dirai plus à la fin de l'épisode, mais tu peux d'ores et déjà aller voir en description pour t'inscrire sur la liste d'attente de l'événement. Je te souhaite une très belle écoute. Salut, je m'appelle Jérémy et je te souhaite la bienvenue dans le podcast du photographe. Je te propose de t'inspirer pour transformer tes images et toute ta vie. Grâce aux interviews d'invités de prestige et avec mes propres retours d'expérience, j'ai à cœur de t'aider à créer des photos qui te ressemblent, des photos fortes en émotion, afin que tu puisses bâtir une entreprise qui met en son centre l'expérience client et aussi qui tu es vraiment. Sur le podcast, on parle photo, tu l'auras compris. Il est aussi question d'état d'esprit, de vision, de marketing, de business ou encore de créativité. Je suis photographe depuis 2012 et j'ai choisi en 2016 d'élargir mon activité en partageant tout ce que j'avais appris et expérimenté ces dernières années au travers de contenus en ligne et de formations. En 2020, j'ai passé une autre étape en créant la Grau Academy, le premier programme d'accompagnement qui aide les photographes à se créer une entreprise pleinement alignée. Et pour tout te dire, j'en suis vraiment extrêmement fier. Maintenant, revenons au podcast du jour, je te souhaite une très belle écoute. Salut Julien.
Salut.
Je suis hyper content du coup d'être avec toi aujourd'hui. On a déjà échangé plusieurs fois, mais c'est la première fois qu'on se voit en face à face. Enfin, les personnes qui écouteront le podcast ne le verront pas parce qu'ils n'auront pas l'image. Mais je vais te mettre une petite photo de toi sur Instagram s'ils veulent voir. T'es un photographe qui m'inspire depuis longtemps. Je trouve que déjà tes photos, tes images, pour un photographe, c'est la base. Et au-delà des images, c'est aussi tout ce que tu véhicules autour de ça. Souvent, je fais intervenir des femmes, en réalité, pour un côté d'être plus doux, plus sensible. Et tu fais partie de ces hommes, je trouve, qui ont une forme de sensibilité. Assez assumé, je crois, avec un discours qui n'est pas trop bourrin. Et personnellement, c'est quelque chose qui me touche et que je trouve inspirant. Donc, merci d'être là aujourd'hui pour partager tout ça avec nous.
Merci de m'avoir invité. Oui.
Est-ce que tu peux commencer à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas?
Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est Julien Saura. J'ai 39 ans déjà. Je suis basé à Rennes. J'ai commencé la photo... Mon premier appareil photo, j'ai dû l'acheter fin 2012. J'ai vraiment considéré commencer à faire des photos en 2013. Donc, ça fait maintenant 9 ans. Bientôt 10 ans même. Donc, voilà. Principalement du portrait. Moi, j'étais beaucoup sur le portrait au début et beaucoup de portraits et de photos. Après, lingerie et nu, aussi bien féminin, masculin. Mais j'ai vraiment une grande passion pour ça. Donc, par la suite, j'en ai fait mon métier. Donc, 2020, je me suis mis à mon compte à temps plein à faire que photographe. Directement, j'ai fait ça. 2020, donc avec une casquette mariage et une casquette boudoir intimiste. J'aime toujours pas ce mot boudoir, mais j'ai pas trouvé d'autres mots. Portrait intimiste, mais voilà. Ouais. Et donc, double casquette. Et donc, je fais mon activité avec... Ces deux choses-là, quoi.
Ces deux choses-là, trop bien.
Voilà.
C'est super intéressant. Ouais. Pardon ?
Que de l'humain, je disais. J'ai pas de pack shot, pas de... Ouais. Voilà, c'est vraiment, j'aime bien l'humain, j'aime bien avoir des personnes devant moi et pas des objets, pas du paysage.
on est pareil, je crois. C'est ce qui nous anime. Ma première question à te poser, c'est selon toi, quelles sont les trois choses que tu as mis en place depuis que tu es lancé qui ont eu un vrai impact dans ton activité?
Les trois choses qui ont eu un impact dans mon activité, déjà, ça me paraît bête, mais travailler. Travailler énormément pour avoir confiance en soi. C'est vraiment, pour moi, c'est important parce que j'ai commencé... En fait, j'ai été en double activité dès 2014. En fait, j'étais à l'époque salarié et un photographe partait faire une presta en Québec. J'avais fait un stage chez lui. Il m'a dit prends une presta, j'ai une demande de famille là, pour des photos. J'ai dit je ne suis pas pro. Tu te mets en micro, c'est fait en 5 minutes et puis tu fais la presta. J'ai dit OK. Donc, 2014. Mais en fait, j'avais commencé la photo il y a un an avant. J'étais totalement. Je me débrouillais, mais je ne m'estimais pas légitime en fait pour faire de la photo. Et donc j'ai fait comme ça, 2, 3 ans, bah, je pouvais cumuler maximum 3 ans en fait la double activité parce que j'étais dans le public. Voilà. Et donc au bout de 3 ans, j'ai laissé mourir l'entreprise, c'était juste pour faire quelques prestations comme ça parce que j'étais pas prêt en fait à ce moment-là à me dire. Les gens diront, ah oh, bah si, t'étais quand même bien en 2016. Ouais, mais moi j'estimais en fait pas encore avoir. Le niveau, en tout cas, voilà, vraiment savoir me dire, là, je peux gérer en toute situation, je pourrais me démerder, même si c'est la merde, même si, voilà, je peux me débrouiller et rendre quelque chose qui fera l'affaire. Donc voilà, je dirais, premier point, c'est ça, c'est cette confiance. Même si je manque pourtant à énormément de confiance, tous les 15 jours, je remets tout en question mon travail à me dire, ah là, ça va pas du tout, mon traitement, il est pourri, oh là là, ça va, voilà. Bref, donc il y a quand même ces problématiques-là, mais malgré tout, j'ai quand même assez confiance. J'arrive à dire, je suis bon en photo. Et c'est vrai que c'est rare que je dise ça de moi, mais là, moi, ouais, si, je suis bon en photo. Et c'était parce que j'ai bossé comme à fond, en fait, la photo, plein de choses. Voilà.
Parce que t'en
Premier
fais
levier.
beaucoup et t'as de la matière et des retours pour voir aussi que c'est le cas, quoi.
C'est ça, bah, j'en ai fait beaucoup. Mais pour moi, c'était avec facilité. J'avais une certaine. Il y a toujours des activités dans notre vie qui paraissent plus fluides, en fait, plus simples. Et la photo fait partie de ces choses où ça me paraît, c'est pas un effort faire des photos, c'est vraiment, je prends l'appareil et voilà. Mais
Ouais.
ce qui est assez marrant, c'est que j'arrive très peu à faire des photographies en dehors de mon travail, quoi.
Ah, c'est intéressant.
Genre, je pars en vacances et limite, mon boîtier, il reste, faut que je me force un peu à le prendre. Après, j'ai plaisir à faire des photos, mais c'est vraiment, il a fallu que je me dise, tiens, je prends mon boîtier. Donc voilà. Bon, je suis très bavard, c'est vrai
Trop bien.
que.
Non, mais c'est très, très bien.
Voilà.
J'ai enregistré un autre épisode pour la série là, ce matin et c'était pareil. Delphine était hyper bavarde. Donc,
Voilà.
la deuxième chose, du coup, qu'est-ce que ce serait pour toi qui a eu un impact?
Donc la confiance, la communication. Parce que on en parlait juste avant en off, mais on peut être le ou la meilleure photographe du monde. Si personne ne nous connaît, on est dans notre coin et on est très bon avec nos photos tout seul, mais personne ne les voit. Donc, le point même presque plus important, c'est communiquer, savoir se vendre pour justement bah, avoir des prospects et après des clients. Donc c'est
T'as
vraiment
appris
le
comment
point.
ça?
Bah j'ai appris, bah j'ai pas appris finalement. C'est
Sur le
encore
tas.
un point. Autant j'ai bossé à fond la photo, moi j'ai appris à l'époque de 2012-2013, c'était encore à l'époque des forums. C'était avant YouTube, enfin c'était avant YouTube, il n'y avait pas vraiment de YouTube vraiment pour apprendre, c'était vraiment les forums et voilà. Autant la communication, j'ai pas vraiment eu l'occasion de le travailler, donc c'est un peu de manière empirique, avoir un peu. Moi je travaille quasiment que sur Instagram, on en parlait aussi juste avant, mais moi j'ai quasiment. Donc c'est pas bien ce que je fais, car je dépends d'Instagram pour ma communication. Et donc, bah, le jour où Instagram change de visibilité, de règle, je ne sais quoi, bah, j'ai plus de prospects, ça veut dire. Ou pour le boudoir, pour la partie nue, le jour où mon compte se fait supprimer une fois de plus, je perds, là j'ai 16 000 followers, ce qui commence à faire une bonne communauté en fait de personnes qui me suivent. Demain, mon compte il saute, je repars à zéro, ça veut dire que du jour au lendemain, j'ai plus de demandes de séance, il faut repartir. Voilà.
Ouais.
Donc là, mon boulot cette année, ça va être de diversifier à fond. Mes différents outils
Canaux
de communication,
d'acquisition, ouais.
voilà, c'est ça. Google, référencement, mon site web qui n'est pas mis à jour depuis 2 ans. Enfin voilà, j'ai créé mes sites et après j'ai eu la flemme de les mettre à jour. Puis en fait, c'est encore une fois pas bien ce que j'ai fait parce que vu que j'avais des clients, bah, je communiquais pas plus que ça sur les sites web. Et on sait bien que la communication, c'est anticiper en fait. C'est pas j'ai des clients, je fais rien, j'en ai plus, je fais parce que la communication, ça se récolte souvent 6 mois après, ça prend du temps en fait.
C'est vrai, mais je trouve que c'est inspirant, tu vois, ton partage, parce que parfois on va attendre d'avoir la communication parfaite ou le ci ou le là, et finalement, toi, ça marche extrêmement bien depuis 2020 où tu es vraiment, tu t'es dit, j'y vais à fond à 100%. Et malgré tout, bah, sans faire tout ce qui est censé être le plus important de faire et tout ça. Donc, c'est quand même, je trouve que c'est chouette de ce message de dire, bah, tu as choisi Instagram, ça te parle, tu y vas à fond, tu as développé des belles communautés dessus, et puis ça fonctionne, quoi.
Ouais, ça marche bien. Après aussi, on en parlait aussi juste avant en off, mais à quel prix? Là, faut le dire aussi, je passais des fois 6 heures par jour sur Instagram pour communiquer, donc j'avais de la clientèle, mais en fait, le temps passé sur Instagram, c'est du temps en moins à faire de la photo, enfin à faire autre chose. Et c'est un temps, ça te bousille le cerveau, Instagram. Enfin, c'est toujours sur le téléphone, toujours à répondre aux gens, à vouloir à tout prix, mince, ma souris n'a pas été efficace, qu'est-ce que je vais faire? Et voilà. Et c'est aussi un truc qui te bouffe le cerveau. Et j'ai vraiment été limite à frôler le burn-out la fin de saison. Et en plus, avec les mariages qui arrivaient par-dessus, j'ai enchaîné une grosse saison. Et c'était juste. Donc là, c'est l'intérêt de diversifier pour pouvoir justement être moins dépendant d'un outil et donc moins stressé aussi à me dire, oulala, il faut vraiment que je fasse des communications en story parce que là, j'ai que 7 séances ce mois-ci, c'est pas assez, il me faut 15 séances et comment je vais faire? Et donc, faut communiquer. Et finalement, c'est un peu un cercle vicieux qui fait qu'on communique finalement trop ou mal. Il faut que je publie, il faut
Ouais.
que je publie. Et voilà quoi.
Trop intéressant.
Donc voilà.
Et la troisième chose, du coup, qui a, selon toi, eu un impact important?
Alors, j'ai dit la confiance, j'ai dit travailler après, bah donc la communication. Troisième chose, bah en fait, faut, enfin, c'est bête, mais juste faire en fait quoi. Non mais c'est con, mais en fait, on peut mettre plein de trucs en place et si on fait rien à la fin, on fait rien quoi. Donc j'aurais pu attendre. En fait, 2020, j'ai créé mon truc, bah j'avais rien fait avant, j'avais pas de site web et tout ça, j'ai dû tout faire d'un coup, bah j'ai tout fait. Parce que mon défaut en général, c'est de vouloir tout faire parfaitement et après commencer à faire le. Enfin voilà, je prépare tout avant et après quand c'est parfait, je peux me lancer. Sauf que quand on fait ça, on fait jamais rien. Donc mieux vaut faire imparfaitement mon site web, il est tout pourri, enfin, il est tout pourri. Je l'estime tout pourri, mais il fait le taf pour l'instant. Maintenant, il faut que je l'améliore. Mais au moins, j'ai un site web depuis 2 ans. J'aurais pu dire non, il n'est pas assez bien, il faut que je l'améliore, il faut machin. On verra après quand j'aurai fait ça, puis j'aurai fait ça, puis j'aurai fait ça. Et 4 ans après, bon, on n'a toujours pas commencé, quoi.
C'est hyper intéressant parce qu'en plus, Google, il prend en compte l'âge du site. Donc, même
Oui.
s'il n'y a rien dessus, il vaut mieux le créer le plus rapidement possible et après le développer, quoi.
Oui, c'est ça. Puis moi, j'étais vraiment plus sur Instagram. Donc, au moins, mine de rien, avoir un site, ça fait pro. Et encore, je connais des photographes qui n'ont pas de site, qui n'ont pas de site web quasiment, qui passent que sur Instagram et qui font tout en story, tout est précisé sur Instagram. Donc, pareil, la problématique de dépendre d'une plateforme, c'est que le jour ferme, etc., on est baisé. Mais c'est vrai que finalement, voilà. Néanmoins, je pense qu'avoir un site web, même un one page tout simple, avec juste contact, tarif ou je ne sais quoi, après, il y aura différentes façons de faire avec ou pas tarif. Voilà. Mais en tout cas, avoir les bases sur le site, ça fait pro. Il y a un site web, il y a un .fr, c'est un site. C'est pas un Wix.com, voilà. C'est une URL achetée, ça coûte 5 balles, ça coûte 5 euros par an et ça fait un truc juste pro, quoi.
Ouais, carrément, je suis d'accord. Trop,
Et
trop bien.
après, développer après le site, pourquoi pas rajouter des pages, rajouter un blog, etc. Mais au tout début, c'est que j'ai commencé à me dire, ah, il me faut que je publie des blogs, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça, il faut ça. Et au bout de 2 mois, je n'avais pas commencé mon site. Alors finalement, j'aurais pu commencer à faire une page, hop, il y a un truc en ligne, et après, je verrai bien par la suite quand j'aurai besoin ou des idées à rajouter, à voir ce que font les collègues, voilà, benchmarking et tout ça, et après avancer. Donc
Trop
voilà, donc, je pense
bien.
que ouais, le conseil, c'est bah, juste, faut faire, quoi. Plutôt que réfléchir, faut faire et réfléchir après. Bon, pas réfléchir après, mais en tout cas, voilà, faut faire en même temps qu'on réfléchit et on va se tromper. En fait, même mieux que ça, mieux que faire, c'est se tromper. Parce qu'au moins, quand on se trompe, c'est qu'on a fait quelque chose, quoi. Alors que pas se tromper, bah, souvent, c'est qu'on ne fait rien. Pour pas se tromper, bah, c'est vrai, c'est ça. Pour pas se tromper, faut rien faire. Comme ça, au moins, on ne se trompe pas. Donc, troisième conseil, bah, faut se tromper. Comme ça, au moins, on aura fait quelque chose, quoi.
J'adore, 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 j'adore.
Voilà.
Ma seconde question, une question plus stratégique. Tu as déjà commencé à donner plein d'éléments de réponse indirectement, hein, en fait, avec ce travail d'y aller, de faire, de se tromper, de communication. Mais si aujourd'hui, tu vois, tu étais face à un photographe qui se lance ou un photographe qui est déjà lancé, qui se dit, putain, j'ai 100 abonnés sur Instagram ou 200 abonnés, ça décolle pas, ou j'ai zéro client, il se passe vraiment rien, tu vois. Est-ce que tu aurais un ou plusieurs conseils stratégiques à lui donner ou voilà, quelque chose qui pourrait l'aider.
Bah c'est vrai que maintenant, je pensais, après, je revenais encore sur Instagram, car finalement, je connais quand même bien Instagram pour utiliser quasiment que ça, mais c'est vrai que avec le temps, c'est devenu compliqué là, maintenant Instagram d'exploser, d'avoir un compte qui se développe facilement parce que bah, il y a des milliers de comptes et comment on sort du lot sur Instagram, c'est assez compliqué. Après, bah, de toute façon, c'est. Je pense, non, je pense à un collègue qui débute et qui a un Instagram à peut-être 400 followers, ça monte tout doucement, mais il poste souvent, il fait du bon taf, il avance. Et en fait, même si aujourd'hui ça marche moyen, il commence à avoir plus de contacts, etc. En fait, c'est même si visuellement on se dit, bof, super, j'ai gagné 2 followers cette semaine, etc. Niveau indicateur, c'est pas fou. Ouais, mais au fur et à mesure, il crée du contenu, il s'améliore en plus. Et voilà. Je m'éparpille un petit peu par rapport à la
Non, mais c'est
question.
hyper intéressant. En fait, derrière ce que tu dis, il y a le côté. C'est pas que la quantité. Parce que si tu as 3 followers par semaine qui te découvrent, mais dans le lot chaque mois, ça te fait signer des séances parce que les gens ils sont
Ah ouais.
impliqués, investis, c'est bénéfique aussi, quoi.
Mais ouais, donc le conseil, bah déjà pas, ne pas se sous-vendre. C'est parce que si on commence par rapport au tarif, si on commence à se dire, oh là, j'aurai pas de clients, je commence pas cher, bah après, quand on monte ses tarifs, les gens vont se dire, il était à 50 euros, il est passé à maintenant à 300 euros, ça fait une grosse différence, quoi. Et encore plus pour les mariages, où des fois le bouche à oreille fait, bah moi, mon photographe, il était à 900 balles et tout ça, et en fait, bah, maintenant, tu vas avoir un tarif normal pour pouvoir en vivre, donc tu es à 1008, 1007, enfin, un tarif de débutant, on va dire, un peu plus élevé. Bah, ton bouche à oreille à 900 euros, tes clients, ils vont pas venir vers toi après à 1008, quoi. Donc, déjà, assumer, en fait, ces tarifs sans pour autant faire l'effet inverse de allez, moi, je mets ma séance à 1000 balles, j'assume, etc. Parce qu'à l'inverse, faut aussi voir le marché derrière à qui on vise et tu peux pas vendre du McDo à 1000 balles, quoi. Même à 100 balles, le McDo, bah, voilà, même si tu fais le meilleur packaging, etc., tu pourras monter un peu tes tarifs, mais à un moment, tu seras quand même limité aussi par rapport à ce que tu fais autour, qu'est-ce qu'il y a en accompagnement, qu'est-ce que tu offres.
Oui, du coup, c'est être bien au clair sur avoir une cohérence entre son offre, son prix, sa cible aussi peut-être, le marché, tu disais. Ouais.
Oui, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a en clé? Bah, se former. Donc, c'est-à-dire, bah oui, se former, mine de rien, ne pas être seul aussi, sans s'entourer de voir localement les collègues qu'il y a dans le coin pour boire des coups avec eux, boire des bières. Parce que finalement, toutes les solutions qu'on trouve, souvent, c'est grâce aux collègues avec qui on va boire une bière ou parler sur Insta ou autre et parler de ça. Bah tiens, moi j'ai fait comme ça marche bien. Ou bah tiens, là, franchement, tu fais un peu de la merde dans ton truc. Enfin, moi si, je peux dire ça. Mais ouais, là, tu fais un peu de la merde, etc. Et tout, là, sur ça, peut-être pense à faire comme ça plutôt. Et voilà. Et finalement, être bah, bien entouré, voilà. Bon conseil pour commencer. Bien s'entourer, en fait, et avec des gens qui nous ressemblent aussi. Parce que
Trop
si
bien.
pour aller faire de l'HQ auprès d'autres gens et faire, ça sert à rien, autant s'entourer avec 4-5 potes, 4-5 collègues avec qui on devient pote après. Et voilà quoi.
C'est hyper intéressant. Il y a Solveig, je l'ai interviewé comme toi pour la
Ouais.
série. Et elle disait que ce qui avait eu un impact énorme à son démarrage, c'était rapidement de s'entourer, en fait, le réseau de personnes. Elle a trouvé ses premiers clients comme ça, d'ailleurs, s'entourer de collègues photographes, mais aussi de personnes qui ne sont pas forcément photographes, mais qui l'accompagnaient pour diverses raisons, pour partager, parce qu'il y a quand même, c'est quand même un métier où on est un peu solitaire parfois. Et du coup, de chercher cette présence extérieure pour avoir des bons conseils, du feedback et tout ça. Et je trouvais que c'était pertinent aussi comme conseil, ouais.
Moi, c'est carrément, enfin, le réseau, c'est hyper important parce que là, je prends les mariages. Actuellement, moi, mon site web n'est pas à jour depuis 2 ans. Instagram, j'ai dû publier 3 photos cette année. Enfin, j'ai vraiment mon Instagram mariage, il bouge pas. Et j'ai très peu de contacts clients directement. C'est grâce aux doublons des collègues principalement. Et là, je commence à avoir des contacts parce qu'à force de faire des mariages, j'ai des contacts avec les domaines, etc., avec qui j'envoie des photos et ils commencent à m'envoyer des clients. Voilà, mais c'est aussi là, j'ai un gros boulot à faire cet hiver, c'est relancer peut-être les domaines avec qui j'ai bossé, les contacter, leur envoyer des photos, voilà, pour vraiment créer du lien avec eux parce que c'est aussi pour le mariage, en tout cas, le domaine est vraiment un bon fournisseur de clients, on va dire. Enfin, c'est
Ouais.
le couple va d'abord trouver le domaine. Parce qu'après, il peut bloquer la date et après, il verra le traiteur, après, il verra le photographe, le DJ, etc. Donc, souvent, le domaine, c'est la porte d'entrée pour avoir peut-être des clients chaque année.
Moi, je suis fou de mariage, mais quand j'en faisais, j'en avais qui venaient des domaines. J'avais des partenariats aussi avec des wedding planners et des traiteurs aussi. En fait, tout ce qui gravite autour du mariage et qui vient avant la photo, souvent dans la tête des mariés. Donc des créateurs, des créatrices de robes de mariée, les traiteurs aussi, parce que ben, voilà, les mariés vont tester et tout ça, et quand tu as un traiteur avec qui tu as hyper sympathisé, qui parle de toi, ben, tu signes des contrats, quoi.
Bah ouais, donc là c'est ça. Et après, on aura s'éparpillé, mais c'est mince. Enfin, j'ai oublié la question. Mais là, avec la casquette boudoir, c'était.
Si tu conseilles une stratégie que tu conseillerais pour développer.
Ouais, voilà. Je pensais à Spotbar. Merci, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. On parle tellement. Voilà. Pour ce, finalement, vu que tu me contactes aussi avec ma casquette boudoir aussi, c'est vrai que c'est un peu différent à l'approche que le mariage. Parce que le mariage. les gens qui se marient vont quand même souvent chercher un photographe. Donc le besoin est existant en fait. Le
Ouais.
boudoir, mine de rien, il faut créer le besoin quasiment. Dans mon cas, pourquoi je suis sur Instagram à fond pour le boudoir? Parce qu'en fait, le besoin est créé en fait par les photos qu'on voit. On se dit, ah ben moi aussi ça pourrait me plaire. Ah ben moi je me reconnais dans ces photos, ça me plairait de le faire. Alors que je me rappelle quand je faisais, enfin quand j'avais des collègues non photographes, quand je bossais avant de faire de la photo justement, quand je bossais et que on faisait un covoiturage et que je parlais de ça, ben, elle me dit, mais elle comprenait même pas l'intérêt de poser en culotte quoi. Elle me disait, mais pourquoi tu, pour, enfin je vois pas l'intérêt. Mais et je pense que beaucoup de monde est comme ça, en fait, avant de voir des photos, ils se disent, ah oui, finalement, bah, c'est pas si mal. Moi, j'avais l'image de la photo de lingerie Playboy, là, avec les seins qui débordent et le collier de perles, etc., je ne sais quoi et tout. Ah ouais, bah, finalement, c'est pas mal, finalement, ça peut être. J'avais pas cette image-là. En fait, on montre une image aussi différente qui va parler à une clientèle aussi et se dire, ah bah, ça pourrait me plaire, bah, ça pourrait être moi aussi, finalement. Ah, je me trouvais trop machin ou pas assez comme ça ou pas assez comme ça. Ah, finalement, c'est bien. Ah, puis il y a aussi des couples. Ah, bah, ça pourrait être bien aussi avec mon mec ou avec ma femme et tout, de faire une séance. Et on crée ce besoin. Mais de base, je connais pas grand monde qui se dit un matin, ah, bah, tiens, j'ai envie de poser tout nu avec ma femme, quoi, en photo. Non, mais c'est
Du
vrai,
coup,
tu vois.
y a... non, mais t'as raison, carrément. Ça me fait rire, mais c'est vrai. T'as... Du coup, y a... derrière ça, y a le besoin d'éducation, peut-être pour
Ah, c'est ça.
certains marchés, en fait,
Oui.
où les gens n'ont peut-être pas pensé aux besoins, ou osent pas, ou savent même pas que ça existe parfois.
Mais c'est ça, en fait, c'est qu'il faut se dire, moi, ça fait avec Insta. Ça fait 19 ans que je fais de la photo, un bout de temps vraiment je fais du nu, que je vois des gens nus en photo parce que les comptes que je suis avant sur Facebook, maintenant sur Insta, c'est beaucoup de nus aussi, etc. Je suis habitué. Mais en fait, c'est peut-être 5% des gens qui voient ça. En fait, les gens normaux, on va dire, ils n'ont pas dans leur feed Instagram ou Twitter des nus, de la lingerie, etc. et tout. Donc pour eux, c'est pas normal. Donc c'est la question, c'est comment toucher ces gens-là finalement. Et donc c'est quand j'ai démarré la photo bah donc en lingerie, en boudoir, bon, j'avais déjà comme avant, j'avais été amateur déjà avant, j'avais déjà une communauté qui me suivait, donc c'était quand même plus simple pour moi. Je partais pas de zéro en fait d'un coup, mais mon gros boulot, ça a été vraiment de la communauté la faire grossir et vraiment donner l'envie aux gens de se dire, moi aussi je pourrais poser, moi aussi je pourrais le faire en fait, et ça pourrait me plaire à moi aussi. Et c'est vraiment le boulot là-dessus, et où il faut encore que je travaille, c'est vraiment communiquer pour toucher les gens et vraiment que les gens se disent que la séance, c'est pas juste des photos, bah, c'est un truc en plus. C'est vraiment, voilà, faut vraiment réussir à bosser là-dessus pour donner de la valeur à la séance, aux photos et ouais, me démarquer après.
Trop, trop bien comme conseil,
Voilà.
franchement, merci. Et ma dernière question, du coup, qui est, je pense, la plus difficile,
Oui.
c'est comment vois-tu l'évolution du marché de la photographie, du coup, dans ces prochaines années, ces prochains mois, ces prochaines années, selon toi?
Moi, j'ai commencé donc la photo il y a à peine 10 ans. Donc, moi, je suis génération, on va dire, numérique. Enfin, quand j'étais gamin, mes parents avaient, voilà, argentique. Mais voilà, j'ai commencé la photo en numérique. J'ai essayé un peu l'argentique. Je pensais adorer ça parce que je suis très, moi, le côté artisanal, prendre le temps. Et en fait, ça m'a royalement emmerdé, l'argentique. En plus, ça coûte cher, hein, c'est de pire en pire. Donc, j'ai vite repassé au numérique pour me dire, c'est plus simple pour moi, j'aime mieux. En fait, j'ai même rendu en numérique qu'en argentique, c'est le même rendu. Ça coûte moins cher et j'ai pas à galérer à faire mon développement après. Voilà, bref. Mais pour dire, voilà, qu'on voit l'évolution des, je mets les guillemets, vieux photographes qui maintenant commencent à disparaître avec leur local. Enfin, en tout cas, sur Rennes, les grandes villes, maintenant, il y a quasiment plus de locaux, en fait, de photographes avec leur boutique, avec. Enfin, il n'y a quasiment plus. Alors qu'avant, il y en avait quand même partout. Enfin, je me rappelle, moi, quand j'étais gamin, il y avait le photo. En plus, il y avait quasiment le photographe, il y avait la galerie comme ça à Leclerc ou autre, il y avait le photographe, non, le photographe qui était là. Maintenant, c'est
Un
la borne de
photomaton,
Leclerc, là, pour faire ce tirage, etc. Le photomaton, il n'y a plus du tout ça. Donc, ça a pas mal évolué. Donc là, maintenant, on est sur une génération de photographes qui ont plutôt pas de local, pas tous, hein, je ne dis pas que tous les y a photographes, mais même les photographes studio, pas forcément un local avec pignon sur rue, ou en tout cas, plus c'est vraiment la vitrine. Plus encore à la campagne, mine de rien, quand même, plus encore les petits villages ont encore plus cette culture en fait du photographe avec son local. Donc voilà. Donc là, en 10 ans, comment ça a évolué? J'en ai connu plusieurs qui ont fermé à Rennes, des vieux qui ont fermé parce que bah oui, c'était la fin. Donc l'avenir maintenant, c'est qu'est-ce qui va se passer? Ça évolue tellement vite que la question, c'est il y a les IA. Enfin, là, on voit même Les gens qui se mettent à la photographie, maintenant, ça coûte pas très cher. Enfin, un boîtier, même au téléphone, on peut faire des photos maintenant. Alors qu'avant, fallait acheter un boîtier, des pellicules, fallait avoir la technique parce que autrement, on cramait sa pellicule à foirer l'exposition. Maintenant, on voit directement ce qu'on fait. Maintenant, c'est que maintenant, les hybrides, on voit carrément en direct le truc. Donc, la photo maintenant est beaucoup plus simple. Donc, déjà, ça veut dire qu'il y a plus de monde qui peut faire de la photographie.
Ouais.
Donc, avant, le photographe, il n'y avait que le photographe qui faisait des photos parce que les autres ne savaient pas faire. Ils avaient tous se foirer à faire des photos moches. Donc, ils ont payé les photographes parce qu'ils devaient savoir.
Mais
Maintenant, tout le
tu
monde.
payes la technique beaucoup
Voilà, c'est ça.
avant et l'expertise en fait. Ouais.
C'est ça. Parce que autrement, tu foirais la photo. C'était en général, voilà, le photographe, lui, il faisait la photo nickel, c'était carré, voilà. C'était un style maintenant qui est maintenant plus trop maintenant à la mode. Maintenant, il y a ce développement maintenant de plein de courants de photographie qui apparaissent, là, enfin, qui apparaissent. En tout cas, chaque photographe maintenant un petit peu sa patte, son identité graphique, son. Alors qu'avant, le photographe, on allait voir un photographe que pour le côté technique. Il est meilleur.
C'est vrai que c'est intéressant ça parce que on va dire c'est peut-être 4-5 dernières années, il y a eu beaucoup de mise en avant de courants photographiques, le moody, le fine art, le lifestyle, toutes ces choses-là, ouais, c'est vrai. Ouais.
Oui. Alors qu'avant, finalement, le photographe, c'était le mec qui avait son gradin en fait à ramener pour le mariage. Donc déjà, il avait un gradin, il avait un gros appareil photo, il avait des flashs et il pouvait gérer l'exposition et pas tout foirer comme nous on l'aurait fait avec notre jetable ou voilà. Donc il avait la technique. Mais après le style, je pense pas qu'on choisissait un photographe pour son style quoi. Juste, il est photographe, il est technicien.
Et du coup,
Maintenant.
tu crois qu'aujourd'hui, on est passé du photographe technicien au photographe artiste, peut-être?
Alors, moi, je ne me considère pas comme un artiste, plus artisan, mais.
Je sais pas comment le dire, mais
Pas
avec
exactement,
une
mais
patte, en
carrément,
tout
avec
cas.
une patte, en tout cas, avec une patte. Même si je pense qu'il n'y a que les photographes, enfin, pas que les photographes, mais une grande partie, surtout les photographes, voient les styles. En fait, les gens. Je pense qu'on est trop enfin, pas à se toucher, mais à être trop à se regarder le nombril avec nos styles de photo, machin, moi, je suis ça, et en fait, les gens, en général, je pense, ils sont un petit peu à s'en foutre. Un petit peu, pas tant que ça, mais je
Je
pense
suis
que.
d'accord.
Les variations entre le fine art, le moody, le machin, les gens vont peut-être même pas la différence, quoi.
Ouais, je suis pas
Plutôt
sûr
des faux
que
styles.
c'est le problème qu'existe quand tu regardes, quand tu es dans un marché où tu suis que des photographes, tu as l'impression que tout le monde en fait voit que des photographes toute la journée. Sauf
Oui.
qu'en fait, les gens, toi tu vas suivre, je sais n'importe quoi, 200 photographes, les gens ils vont en suivre deux. Et du coup, ils n'ont pas la même vision que tu as du monde de la photo. Et du coup, la comparaison que tu peux faire toi a rien à voir avec eux, la comparaison qu'ils peuvent faire en réalité.
Ça. Donc nous on verra, mais c'est comme pour tout, quand on est musicien, on voit, on va écouter les arrangements et se dire oh là là, l'arrangement il est bien, ou là c'est vraiment foiré. Quand t'es pas musicien, tu verras pas la différence, tu vas pas entendre le petit pain à la batterie, le mini pain, alors que l'autre dira putain il a fait un pain, le pauvre. Alors que, voilà, bah là c'est pareil, les gens, la plupart des gens, ils verront pas de différence quoi. Donc il y aura après se démarquer avec le prix, donc je suis moins cher, on me prend parce que je suis moins cher. Donc là, c'est pas la bonne solution. Voilà. Et en effet, parce qu'on reparle pour l'avenir, comment je vois l'avenir arriver? Là, on voit des plateformes, en fait, genre Miro, etc., enfin, qui vont, en fait, ubériser le métier de photographe, où en gros, le photographe n'est plus que
Un
à appuyer
exécutant.
sur un bouton, il est
Ouais.
envoyé, les consoles, là, il est exécutant, on t'envoie faire une presta pas chère, genre à 50 balles la presta, où c'est totalement le marché, et pas facile, est tué par rapport à ses prix. Bah, moi, je ne pourrais pas concurrencer un tel tarif par une plateforme. En fait, le mec est envoyé donc, faire des photos pour 50 balles. Il renvoie les photos brutes à la plateforme qui, logiquement, les traite automatiquement avec IA, etc. et tout. Même si dans les faits, ce n'était pas si fameux, en fait, le rendu. Parce que les photographes ne sont pas très bons en général qui vont bosser là-dessus.
Oui, après, c'est le
Voilà.
serpent qui se mord la queue.
Et
Mais
c'est
du
pour
coup,
dire
tu as payé un
l'avenir.
truc pas cher, donc tu as aussi un
Voilà.
résultat qui est pas cher. Après, c'est aussi, tu vois, ce qui est intéressant, je trouve, c'est comment des offres, comment on se positionne sur un marché pour
Voilà.
répondre à une offre. Et du coup, bah, des plateformes qui proposent ça répondent à une offre de personnes qui veulent de la photo pas chère. Et je pense que l'avenir, ça va être de se positionner sur,
C'est ça.
du coup, je te laisse le dire.
Mais c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que se démarquer par la technicité, maintenant tout le monde peut faire des photos, plus ou moins, je caricature un peu, mais quasiment, et dans l'avenir, il y aura de plus en plus d'outils qui vont faciliter la photo. On pourra facilement gérer un contre-jour et que l'appareil saura automatiquement que le contre-jour, en fait, on va quand même surexposer. Alors, actuellement, faut quand même encore un peu se débrouiller pour mesurer la lumière où il faut pour pouvoir gérer le contre-jour. Bon, c'est tout bête. Donc ça, on oublie. Les prix, bah maintenant, bah les prix, bah c'est pas non plus un moyen de se différencier parce qu'on peut que en fait, bah, pas vivre, pas réussir à vivre parce que ce n'est pas cher. On aura peut-être des clients, mais la concurrence va être énorme sur ce marché. Tout le monde maintenant peut être photographe, donc tout le monde peut être pas cher. Donc voilà.
Et puis,
Donc
il
il
faut en
reste.
faire un nombre astronomique pour espérer
Alors.
gagner quoi que ce soit, quoi.
Mais je me demande, j'ai dû entendre ça. C'était dans une vidéo, je sais pas. Je crois que c'était une vidéo, ouais, d'un photographe qui avait parlé de ça, mais d'un mec qui faisait que des photos en fait de couples de mariés en fait devant la Tour Eiffel, genre à pas cher, mais il enchaînait. Donc il avait un workflow en fait, un workflow qui était efficace. Il était pas cher, mais il tapait peut-être 30, 40 séances par jour à enchaîner comme ça, un traitement très facile en fait, et ça en fait
Ouais.
c'était hyper rentable.
Après, c'est le principe du filmage au final. Quand tu es des photographes qui font ça sur la plage, dans les parcs d'attractions et
C'est ça.
tout, où tu joues sur le volume d'avoir beaucoup de personnes avec un prix qui est bas, et du coup, en fait, tu es rentable parce que tu joues sur un volume et pas sur une expérience particulière ou sur la qualité, quoi.
Voilà. Donc l'avenir de la photo, ça va passer par offrir une expérience. Donc qu'est-ce que j'offre de plus? Bah ça, même maintenant, même se poser aujourd'hui, qu'est-ce que moi j'offre de plus que le tonton qui a un appareil photo, qui a un réflexe, qu'est-ce que je vais offrir de plus que l'autre collègue qui fait un peu comme moi, mais alors qu'est-ce que moi j'ai de plus que lui? Et c'est là-dessus en fait qu'il faut appuyer sa communication. Tu l'as dit au tout début en me présentant que j'étais sensible, etc. Bah, je tente d'appuyer ma communication là-dessus en fait, aussi.
Ouais.
Car je sais que c'est pour moi aussi, c'est un moyen en fait de toucher, par exemple, dans le boudoir, la photo de linge, etc. Je tente maintenant de toucher aussi plus les mecs. Parce que c'est mine de rien une clientèle qui est quand même très peu touchée, en fait, en tout cas très peu. La communication est très peu axée vers eux, en fait, en tout cas pour les toucher, pour faire des séances avec eux. Donc je commence un peu à avoir des mecs, mais principalement c'est quasiment que des femmes. Et en plus, en tant que photographe homme, j'ai intérêt aussi à la fois à rassurer et à communiquer sur ce côté, justement, cette approche aussi moins bourrine que certains photographes mecs qui font du boudoir ou. On dirait que c'est un autre style. Et c'est vrai que souvent, on prend pour une femme. On a souvent pris pour une femme avant de voir. Ah, mais en fait, c'est Julien. En fait, et souvent, en voyant mes photos, on pensait que c'était une femme. Donc, moi, pour moi, c'est super. C'est un putain de compliment, quoi, de dire ça. Mais donc, voilà. Donc, c'est
Tu pourrais
vraiment
prendre
communiquer.
un nom de scène, Julia.
Voilà, je pourrais.
Non,
Bref, ce serait un peu trompé sur le client parce
mais
que.
t'as raison.
C'est vrai. Mais mine de rien, c'est vrai que. Donc, voilà. Donc, moi, c'est vrai que c'est vraiment axé. Me dire, bah, qu'est-ce qui me différencie? Bah, moi, cette approche. Peut-être plus sensible, en tout cas plus douce, même si je peux avoir des photos qui vont être très érotiques, etc. Mais néanmoins, avec un regard assez doux, même sur des choses qui peuvent être plus hard, quoi. Il y aura toujours cette approche assez douce parce que c'est comme, je suis comme ça, quoi. Donc, finalement, c'est une qualité, donc autant la mettre en avant.
Ouais, c'est le
Donc,
regard
voilà.
que tu portes sur les choses. Je
Ouais.
trouve que quand même dans la photographie, c'est un moyen d'expression où on a la chance de pouvoir le montrer visuellement, tu vois.
Oui.
Et du coup, je trouve que ce qui est assez... Tu vois, je me dis à un chanteur, tu peux entendre encore ce qu'il propose, mais tu vois, dans des professions plus classiques où en fait, tu peux pas montrer le résultat, nous, on peut avoir un message qui est cohérent avec un résultat qu'on peut montrer en image et du coup, d'accentuer là-dessus pour justement toucher des personnes qui vont aimer notre sensibilité, nos valeurs, notre message, l'expérience qu'on propose. Et du coup, la vente, ça se joue aussi beaucoup sur l'émotion, quoi.
Bah oui, totalement. En fait, je peux pas communiquer sur Instagram. Enfin, justement, pourquoi Instagram? Parce que Instagram, on est proche. Je suis proche des gens aussi, donc je peux pas plus facilement aussi les toucher en leur parlant directement, en fait. C'est pas juste, on fait des photos, j'ai 5 créneaux de dispo, qui veut faire des photos? Parce qu'en fait, ça suffira pas en fait, pour les toucher. Donc, il faut que je parle plus de moi aussi, voilà, c'est vraiment ces questions-là. Donc, l'avenir de la photo, je vois en effet arriver beaucoup d'outils qui vont faciliter encore plus que maintenant. C'est déjà le cas, là, on voit encore ce qui se fait avec les smartphones qui sont vraiment formidables maintenant au niveau rendu photo, enfin, il y a des trucs super qui se passent. Donc, ça va encore s'améliorer niveau IA un peu maintenant, enfin, j'ai un téléphone tout pourri, donc je sais pas si c'est des trucs-là, mais je sais que c'est iPhone ou autre. Le téléphone prend carrément une rafale, en fait, une mini vidéo, et après on choisit la meilleure photo, la meilleure en fait, la photo dans cette rafale de photos, en fait. Bah, c'est formidable, il n'y a même plus à attendre le bon moment. On prend la rafale, et après on se dit, bah, tiens, laquelle est la bonne dedans? Donc on peut imaginer en quelques années, l'appareil sera automatiquement même laquelle est la meilleure, parce que par IA, il saura que la meilleure, c'est celle-là, parce que statistiquement, c'est la
Et le sourire, le machin, le
Voilà,
ci, le
il y aura
là.
les outils. Bah, mais maintenant, je veux dire, les outils maintenant pour les, par exemple, les photos de groupe pour les mariages, on passe la photo, sa série de photos dans l'outil et automatiquement, il garde les photos avec les yeux ouverts. Bah, ça a un petit gain de temps. Donc, tout ce qui va être aide à la photographie va s'améliorer. Donc, un jour, je pense qu'une personne lambda pourra être aussi bonne que moi techniquement, on va dire, limite, en tout cas, avec les outils d'aide en fait de photographie. Donc, moi, qu'est-ce que je peux apporter en plus, quoi? Et c'est ça, en fait, ça va être. Bah, l'accompagnement, avec moi, je mets en confiance. Il y a les cadrages, l'approche, c'est mineur. Pour l'instant, en tout cas, encore le cadrage, ça reste encore un choix à faire.
C'est ce que j'allais te
L'humain, c'est
dire. Tu
aussi.
vois, quand tu l'as dit, j'allais te poser la question. Est-ce que tu penses pas, malgré tout, que sur des aspects du choix du cadrage, qui sous-entend aussi le choix de la focale qu'on utilise, de qu'est-ce qu'on met ou pas dans le cadre, et aussi, quelque chose qui est hyper important, du choix de la lumière, est-ce que tu penses que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être concurrencé par une IA, tu vois?
Bah, j'imagine qu'un jour oui, parce que de toute façon ça évolue tellement. Ça, un jour, bien sûr, j'imagine que oui. Après, quand, je sais pas. Je pense qu'on a encore quand même quelques dizaines d'années avant que ça arrive vraiment. Et c'est là-dessus pour l'instant que moi je vais communiquer plus vraiment sur mon approche, sur ma patte et sur ouais, justement ces cadrages, le choix de la focale. Moi je bosse que au 50 mm, donc c'est un choix aussi parce que j'aime bien cette focale-là. On est toujours proche des gens en plus. Et voilà, j'aime bien le 50. D'autres, c'est le 35, d'autres, c'est le 24, ou c'est en jouant là-dessus. Bah, lumière, c'est toujours la même lumière, je l'aime bien, c'est une lumière assez douce, j'aime bien comment les gens vont se mettre aussi par rapport à la lumière. C'est un choix. Et c'est ce qui fait que c'est ma patte, et que même souvent, on me dit ça, ah bah tiens, vraiment, on te reconnaît, tes photos, Julien. Alors que moi, je me dis, ah bon, mais j'ai changé encore de style. Et en fait, au fond, en fait, non, parce que finalement, au fond, malgré tout, c'est ce que je fais, je ne me rends pas compte. Et donc, c'est cool aussi, je me dis, mince, j'ai passé 2 mois à bosser mon traitement pour qu'on me dise, bah, c'est vraiment.
C'est comme avant.
Voilà, c'est ça, je me dis, ben, c'est carrément différent. Bah, en fait, non, au fond, c'est juste moi qui vois les micro-variations, mais en fait, en face, les gens ne voient pas la différence, quoi. Donc, finalement, je perds 2 mois pour rien. C'est ça, c'est se dire comment être efficace, quoi. Donc,
Ouais, ça
voilà.
rejoint ce que tu disais au début de d'y aller, quoi, et puis
Mais en même temps, il faut se tromper pour savoir que bah, peut-être que maintenant, mon traitement, bah, voilà, avant, j'avais plein de traitements différents, maintenant, je n'ai plus qu'un traitement pour tout. Après, je varie, etc. Mais maintenant, j'ai plus qu'un traitement par facilité parce que bah, finalement, ça suffit et voilà, quoi. Donc voilà, donc pour venir à la question, comment l'avenir de la photo, comment je le vois et comment finalement même réussir à tirer son épingle du jeu, ça va être de être, enfin, j'allais dire, vendre le côté unique, qu'est-ce qu'on offre de plus et réfléchir à qu'est-ce que j'ai à proposer de plus que les autres. Parce que si on propose la même chose que les autres, bah en fait, finalement, et si demain tonton en mariage fait aussi bien que moi, bah, je peux comprendre les clients de dire bah, tonton, faire les photos. Et encore, je pourrais l'argumenter et dire, mais en même temps, tonton, s'il fait les photos, il ne sera pas à profiter du buffet et à profiter de la journée. Donc, il y a encore des arguments à trouver aussi pour qu'on s'argumenter. Mais voilà, mais ça voudra dire, bah, Julien, en mettant en question, si les gens peuvent, grâce à des IA ou autres, faire aussi bien que toi, bah,
Moi,
toi, t'arrêtes la
ça me
photo.
paraît, tu vois, ça me paraît bon, je sais, tout est possible, tu vois, tout
Oui.
peut être créé, et peut-être qu'il pourrait y avoir un robot drone qui sera présent pour prendre plein de moments et tout. Aujourd'hui, moi, ça me paraît être un peu un fantasme parce que même si je fais plus de mariage, il y a tellement de métriques à prendre en compte dans qu'est-ce que tu choisis de photographier, est-ce que c'est la mamie derrière qui est en train de pleurer, est-ce que c'est les mariés, où tu te mets. Tu vois, le mariage, c'est vraiment spécifique parce que je trouve que ça demande une rigueur en photographie, tu vois, c'est du reportage en fait, qui est assez importante. Et aujourd'hui, dans le mariage, j'ai vraiment du mal à imaginer que ça puisse être remplacé. Par contre, effectivement, que ça allège la partie post-prod, que ça allège le workflow. Ça, je pense que c'est quelque chose qui arrivera et je vois ça comme quelque chose de plutôt bénéfique en fait.
Ouais, ça commence déjà à arriver. Il faut que je teste ça aussi, là. Un outil en ligne, là, bah, c'est payant, mais c'est pas cher du tout. Et en gros, si une IA, tu lui envoies ton catalogue Lightroom, il faut au moins 10 000 photos, 5 à 10 000 photos. Elle apprend son traitement, en gros. Et après, tu lui envoies, tu as un mariage, tu as 1 000 photos à envoyer, en fait, à traiter. Tu lui envoies les photos, en fait, et il se base sur ton traitement qu'elle a appris à gérer. Et elle te renvoie le catalogue à traiter, en fait, redresser, etc. Il n'y a plus qu'à, après, bah, contrôler si tout est bon et passer en noir et blanc des photos si tu veux, et basta.
Ça
Et c'est
ce sera un gain énorme parce que le nombre de
déjà le
photographes
cas,
qui
c'est déjà le cas
détestent le
maintenant.
post-traitement, ouais.
C'est déjà le cas. Moi, j'aime pas le basse-traitement. Moi, j'ai hâte de tester ça pour voir
Après,
justement.
j'ai des copains qui ont utilisé ça et qui sont pas hyper
Ouais.
satisfaits. Donc, je pense que dans l'avenir, ça va s'améliorer de
Oui.
toute façon.
Mais en même temps, le post-traitement, pour moi, enfin, après, chacun verra, mais moi, le post-traitement, ça m'ennuie déjà de le faire en général. C'est du long, c'est long. Et si je pouvais faire que de la prise de vue et boire des cafés avec les clients, moi, ce qui me plaît en photo, finalement, c'est la partie avant où je rencontre le client pour du boudoir, par exemple. On boit un café, un thé, j'apprends à comprendre la personne, comprendre ses envies, ses craintes, ses peurs, etc. Toute la partie, en fait, comprendre la personne et après la prise de vue et comment m'adapter à cette personne-là qui va avoir ses envies, ses complexes, etc. Comment la mettre à l'aise et la prise de vue. Moi, si je pouvais m'arrêter là et après le reste, le gérer par un prestataire ou autre ou une IA, moi, pour moi, c'est parfait. Donc là, j'ai hâte de tester ça un petit peu, voir un peu le rendu, voir comment ça va. Enfin, okay, faut pour gagner du temps. Moi, un mariage, c'est 8-15 heures de boulot derrière en post-traitement.
Ouais.
Donc, si je peux enlever ces 8 heures par 2 heures, 3 heures, parce que j'ai le tri et vais le contrôler après, ça me prend 3 heures au lieu de 15 heures, le temps gagné
Et ouf, ouais.
pour faire d'autres séances, pour être avec ma
Ouais.
fille, pour voilà, ma femme, ma famille, etc. Enfin, faire d'autres choses finalement. C'est formidable, quoi.
Je trouve que, tu vois, c'est chouette que tu parles de ça parce que y a beaucoup de photographes à qui je conseille de déléguer le post-traitement. Alors aujourd'hui, tu as des studios qui font ça,
Oui.
tu vois, tu as des labos qui font ça. Demain, il y aura sûrement plusieurs IA hyper compétentes pour ça. Et ils me disent, oui, mais c'est ma patte, c'est mon truc et tout. Et moi, je me suis toujours dit, on n'a aucune valeur, ah, j'exagère, mais on a très peu de valeur en tant que photographe à post-traiter ces images parce que du coup, c'est beaucoup de temps. Et on n'est jamais aussi doué que quelqu'un qui va faire ça toute la journée, par exemple. Si on reste
Ouais.
sur une comparaison humain à humain, et quelqu'un qui traite 1000 photos par jour, forcément, il sera plus rapide, plus efficace, il aura un œil beaucoup plus affiné que nous, photographes, qui allons en traiter X nombre dans l'année, peut-être 10 ou 100 fois moins, quoi. Moi, je partage vraiment ton avis de dire la plus-value, notre plus-value, elle est dans l'expérience, elle est dans être avec nos clients, partager des moments avec eux. Et on a beaucoup plus d'intérêt à faire le double de séance et à passer 2 fois moins de temps en post-prod, quoi, que l'inverse, en fait.
Ben c'est ça. Moi, la plus-value, c'est encore mettre les gens à l'aise, en confiance, avec qui, soit on me dira en mariage, ah ben, je t'ai pas vu de la journée, tu étais invisible alors que j'ai passé la journée avec eux, etc. Et j'ai réussi à me fondre dans le paysage, à blaguer avec les invités, même avec les mariés. Et finalement, ils ne se sont même pas rendus compte que j'étais là à la fin. Et c'est à la fois formidable parce qu'ils ont passé une journée sans avoir un mec dans les pattes qui les embête. Et en même temps, j'ai fait mon boulot et j'étais là tout le temps en fait, avec eux. Donc c'est cool quand c'est du boudoir, c'est super aussi que les gens. Ils n'ont jamais posé avant, ils sont complexés, ils vont finir la séance en mode waouh quoi, c'est formidable quoi et tout, ce que j'ai réussi à faire. Enfin voilà, c'est vraiment là c'est la plus-value. Le post-traitement, oui, je l'ai affiné, mais demain si je délègue, je sais ce que je voudrais aussi en post-traitement. Je dirais je veux ça, je l'ai bossé dessus, c'est ça que je veux. Mais c'est pas genre démerde-toi avec mes photos, puis comme tu peux. Non, c'est quand même ma patte,
Ta
c'est mon
patte,
plaisir,
bien sûr, bien sûr.
c'est quand même mon traitement. Mais bon, c'est quand même. Je veux dire, avant, les photographes, ils avaient leur tireur attitré aussi. Ils avaient leur péloche préférée aussi pour leur style. Et c'était un peu pareil, quoi. C'était le tireur aussi qui faisait aussi
Le rendu un peu,
rendu. Pas le photographe, hein. C'était le tireur à la fin qui avait le rendu aussi par rapport au.
ouais.
Enfin, je
Bah,
m'avance un peu trop par rapport à
non,
celui
mais
que
je suis d'accord avec toi. Je
mais
pense que c'est
j'ai pu
toujours une
lire par
histoire de
rapport à ça.
cycle, tu vois. Ouais.
Voilà.
Aujourd'hui, c'est plus poussé le développement que ce qu'il était avant. Mais malgré tout, c'est un peu cette idée de c'est pas une fin en soi de le faire soi, en fait. Là, notre plus-value, elle est pas là-dedans.
Pour moi, non. Après, d'autres diront bah, peut-être que. Bah, en fait, c'est comme ça que je le vois encore une fois. Moi, je suis artisan, c'est mon boulot en fait. Donc, si je peux avoir la même qualité à la fin, parce que si c'est pour faire une qualité moindre, j'avoue que j'ai pas envie. Mais si la qualité à la fin, c'est la même. Que ça m'a coûté, donc là, l'outil que j'avais vu, c'était 4 centimes la photo. Donc 40 euros un mariage, entre 40 et 50 euros un mariage, on va dire, pour 1000 photos plus ou moins, tu vois. Ça me coûte 50 euros pour gagner 10-12 heures,
C'est énorme.
pour un rendu qui est derrière le même, parce que donc, je veux pas un rendu moins bien, du moins 10 ans, mais au moins aussi bien, et je gagne 12 heures pour 50 euros. Bah, franchement, en tant qu'artisan, bah, c'est du temps pour gagner au pire plus d'argent, faire d'autres séances à côté. Donc c'est que du bonus, quoi.
ou du temps pour toi et tout
Du
ça.
temps pour moi, à
Et
l'inverse.
tu vois, c'est vrai que pour nuancer, peut-être que des photographes, tu vois, j'ai en tête des photographes qui font du studio avec des mises en scène, où il y a du coup beaucoup de retouches sur les images derrière, parce que il y a un côté très artistique, où ils vont choisir d'intégrer, de faire des collages, des machins et tout. Là, effectivement, c'est particulier. Mais pour des personnes comme nous, en tout cas pour nuancer, qui faisons du lifestyle un petit peu, tu vois, de la photo, où on n'a pas une retouche poussée, en réalité, ce sera clairement un gain. Trop, trop bien. Pour les personnes qui souhaitent te découvrir, s'il existe des personnes qui ne te connaissent pas encore, ils peuvent aller te trouver où?
Et bah, principalement sur Instagram pour l'instant, même si là je refais mes sites, donc j'espère à la fin d'année faire des sites, enfin les mettre en tout cas en ligne, avoir des nouveaux sites. Donc j'ai Instagram, bah, pour la partie portrait, mariage, c'est julien.saura, Saura, sur donc Insta. Et pour le boudoir, donc tout ce qui va être plus intimiste, c'est un autre nom, Like a Sunday Morning, avec mon magnifique accent anglais. Et comme Instagram m'a shadowban, c'est-à-dire je suis invisible, je suis introuvable sur Instagram, il faut taper tout
Je
entièrement.
mettrai le lien dans la
Voilà, le
description,
lien
comme ça
sera
il n'y aura
là.
qu'à cliquer pour tomber directement sur ton
C'est
compte.
ça. Parce que sinon, on ne me trouve pas. C'est très chiant aussi, là, pareil. Donc, d'où ne pas dépendre d'un seul outil, parce qu'on peut se retrouver coincé après comme ça, à être invisible et à ne plus pouvoir communiquer. Donc voilà.
Et petite mort, tu...
J'en parle. Ah, ça, j'en parle pas trop finalement. Ça reste plus. C'est un peu à part. Mais c'est. Ouais, petite mort aussi. C'est mon compte. C'est intimiste plus chaud, on va dire.
Ouais.
Mais c'est vrai que j'en parle. C'est un peu à part, ça, en même temps. Bah, tiens, tu en parles
Moi,
finalement?
je t'ai connu grâce à Petite Mort, en réalité.
C'est
C'est un
marrant, ça.
copain qui m'avait partagé ton compte.
Bah ouais. Mais c'était plus. Bah ça, j'ai encore du mal. Ça, c'est pareil. C'est une bonne question aussi pour cet hiver. J'ai encore du mal à assumer plus ce côté plus cul en fait de la photo en fait où il y a une bonne demande aussi, mais l'associer, j'ai toujours peur que ça fasse peur à des potentiels clients qui vont dire oulala, là là, qu'est-ce qu'il fait en photo, alors que finalement tous les gens qui découvrent ça à chaque fois sont adorent quoi. Donc c'est toujours
Ouais.
un peu j'ai peur de faire peur, en même temps je me dis ça plaît. Donc voilà. Donc voilà, si vous voulez voir mon activité plus érotique, voire plus, c'est petitemort.fr.
Trop,
Voilà,
trop
c'est
bien.
maintenant un vieux
Et
projet.
pour les photographes qui veulent échanger avec toi aussi, bah, ils pourront le faire dans le Winter Club, du coup, s'ils en ont envie. Merci du fond du cœur, Julien, pour tout ce que tu as partagé. Tu as partagé énormément de pépites.
Ouais.
Je pense qu'on est bavards tous les deux, donc
Oui.
c'était très, très riche. Merci à toi, et puis je te dis à très bientôt.
Ça marche, bah merci aussi, puis bah à bientôt.
À bientôt.
Ciao.
Merci à Julien pour tous les conseils qu'il a partagés. Je ne sais pas toi, mais personnellement, je trouve ça tellement passionnant de comprendre ce qui fait la réussite d'autres photographes. Et en parlant de réussite, si tu veux acquérir le bon état d'esprit et comprendre quelle stratégie fonctionne le mieux, j'ai le plaisir de t'annoncer que Julien fera partie des 8 mentors de mon prochain programme d'accompagnement. Si tu veux poursuivre ces échanges de vive voix avec lui, va faire un tour en description pour rejoindre la liste d'attente du Winter Club. Et reçois le programme complet avant tout le monde le 21 octobre prochain. Je te dis à demain pour la cinquième interview de cette série d'épisodes de podcast. Merci du fond du cœur d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si ce dernier t'a plu, je serais très heureux que tu laisses un avis et un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée. Et si tu veux aller plus loin, rejoins-moi sur Instagram à @jeremyguillaumephoto pour continuer d'échanger et pourquoi pas refaire le monde. Je donne rendez-vous pour le prochain épisode et en attendant, prends soin de toi et continue à kiffer ce que tu fais. Je t'embrasse.